à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative. Nous sommes le vendredi 25 avril. Aujourd'hui, Benjamin est à la technique pour sa dernière émission avec nous.
Salut. Bonjour.
Et tu as aussi préparé des actus avec Aline, également avec nous dans le studio aujourd'hui. Bonjour Aline.
Salut.
Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler en deuxième partie d'émission ?
Oh, on a plein de trucs, on a un concert pour Benjamin, moi j'ai un marché des créateurs, il y a aussi une exposition, et enfin pour finir, une petite annonce pour Minuit avant la nuit.
Vous êtes lâchés là.
Ouais,
quatre actus. Au taquet. Avant ça, on va s'écouter l'interview de l'auteur François Thibault, réalisée par un de nos bénévoles, Thomas Roland.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler littérature avec Le Vélo de l'Ange, le dernier recueil de nouvelles de François Thibault. Lauréat du prix Loin du marketing en 2017 pour l'ensemble de son œuvre, François Thibault réside dans l'Aisne et est l'auteur de 11 romans et 3 recueils de nouvelles dont Le Vélo de l'Ange, qui vient de paraître aux éditions Court Toujours. Parmi ses ouvrages, Notre-Dame des Ombres obtient le prix Paul Léoto en 1997 et Le Guerrier Nu le prix Joseph Delteille en 2000. Fils du colonel Paul Thibault, natif des Ardennes, chirurgien des forces françaises libres et compagnon de la libération, il est par sa mère d'origine tarnaise et britannique, Françoise de Juge Montespieu, descendant de huguenots languedociens persécutés sous Louis XIV. Son univers littéraire s'inspire de leur histoire et ses romans se situent dans un pays de montagnes imaginaires à différentes époques. Les 12 nouvelles qui composent Le Vélo de l'Ange sont alors baignées d'une ambiance entre réalisme et onirisme et se colorent de tendresse et de bienveillance. Dans ces textes courts, il y a question d'amour et d'amitié, de solitude et de résignation. La petite histoire y rencontre la grande. Le temps ne s'y écoule pas toujours de la même façon. Les générations fraternisent et les rendez-vous sont parfois manqués. Dans une langue poétique où pointe une certaine mélancolie, l'auteur évoque la frustration, le désir et le rêve. Peuplé de personnages étranges, attachants ou séduisants, l'univers de François Thibault s'égare parfois sur les terres plus ou moins inquiétantes et mystérieuses du fantastique. Dans cette étrangeté diffuse, les vivants côtoient les morts comme des apparitions clémentes ou sous la forme de simples souvenirs. Cependant, il serait inexact de penser que la tristesse et le marasme sont les seuls ingrédients du Vélo de l'Ange. De ses écrits aussi beaux qu'envoûtants, il s'en dégage beaucoup de cœur, d'humanité et d'amour de la vie. Le Vélo de l'Ange est un livre généreux, un hymne à la littérature dans ce qu'elle peut offrir de plus grand. Et pour parler du Vélo de l'Ange, je suis justement avec François Thibault, son auteur. François Thibault, bonjour.
Bonjour.
François Thibault, quand et à quelle occasion vous êtes-vous tourné vers la littérature ?
Je crois que j'avais 8 ans et j'ai écrit un poème qui s'appelait L'écureuil, c'était des vers de Mirliton, quoi. Et j'ai pas arrêté depuis.
Après, vous êtes tourné vers. Vous avez continué dans la poésie ou...
Non, pas du tout.
Donc c'était plus des récits, des
voilà,
nouvelles.
Je faisais des pastiches. Je faisais des pastiches d'Arsène Lupin ou de Alexandre Dumas ou des choses comme ça.
Et à quel moment vous êtes dit que vous alliez en vivre ?
Je sais pas, je me suis dit que j'allais continuer de toute façon. Mais pour en vivre, j'ai fait des travaux alimentaires. J'ai été traducteur et puis rewriter. J'étais nègre, comme on disait autrefois.
Écrivain fantôme, comme on dit maintenant.
Voilà.
François Thibault, quel écrivain êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous en tant qu'écrivain ?
Je me décrirais comme un écrivain instinctif. C'est-à-dire, j'ai pas de pensée particulière. Ce que je cherche à rendre, ce sont des sensations, des émotions, des personnages, quoi. Mais j'écris comme ça, quoi, d'instinct.
Vos personnages prennent vie sous votre plume. Vous n'avez pas de plan.
Non.
Et vous développez un univers singulier dans vos écrits. Donc, comment vous viennent vos idées, justement?
Ah ben les idées, c'est la transfiguration de... Il y a des scènes qui ont vraiment existé et que je transfigure complètement et que je transforme, par exemple, la première qui s'appelle l'accordeur. J'ai eu un accordeur qui est venu chez moi pour... Et puis le reste, bon, je l'ai inventé et en fait, c'est un fantôme qui est venu chez le narrateur. C'est-à-dire, ça s'en va tout seul, quoi. Si vous voulez, ça se développe tout seul.
quand vous travaillez un recueil de nouvelles, comment cela se passe? Vous faites une première sélection, une sélection de textes, l'ordre se fait avec l'éditeur. Comment vous travaillez avec l'éditeur justement?
Oh ben l'éditeur, je crois que cette fois-ci, il a dû invertir deux nouvelles. Moi, j'avais mis dans l'ordre de la rédaction. Et ça, non, il n'y a pas eu de changement majeur.
Est-ce qu'il y a des nouvelles que vous avez retirées, ou que vous avez ajoutées, que l'éditeur a voulu enlever ou...
Il y en a que je n'ai pas écrites, que je voulais écrire, mais je me suis dit, ce n'est pas la peine, ça va faire doublon. Et puis, dans ce recueil-là, les gens qui l'ont lu m'ont dit qu'à leur avis, il y avait des éléments autobiographiques, puisque ma femme, qui est décédée il y a 6 ans, apparaît tout le temps. Elle fait toujours une apparition brève ou discrète, ou alors elle est un personnage. Il y a une nouvelle où c'est une médecin anglaise qui est la femme du narrateur, mais... C'est inspiré par elle, oui.
Ça se ressent beaucoup, ce sentiment de réalisme qui se noue avec une ambiance un peu fantastique, un peu onirique.
Oui, parce que c'est ça qui est... Par exemple, là, il y a la nouvelle qui raconte la disparition de ma femme. Il y a plein de phénomènes surnaturels. Il y a un chat qui se change en buse, des choses comme ça. Et puis, il y a des critiques qui ont dit que c'était des hallucinations. Et évidemment, pour le narrateur, c'est pas ça du tout. Ce sont des phénomènes réels.
Oui, il s'agit de la nouvelle qui donne son titre au recueil, c'est Le vélo de l'ange.
Voilà, voilà.
Où justement, il y a une histoire avec un petit garçon à vélo.
Voilà, pour le narrateur, c'était un ange envoyé par sa femme.
Et écrire pour vous, c'est quoi?
Écrire, c'est-à-dire pour moi...
Oui, qu'est-ce que ça représente l'écriture? Qu'est-ce que ça implique dans votre vie?
Ah ben, c'est ma nature. Je suis fait pour ça, quoi.
Vous ne vous êtes jamais arrêté d'écrire? Vous êtes toujours...
Non, jamais arrêté, non. Il y a eu des interruptions quand j'avais de gros travaux alimentaires à faire, ça c'est normal, mais... Je me souviens d'un médecin qui me demandait, je vois que vous écrivez, et il me dit, ça rapporte gros? Et j'ai dit non, ça me paye mes cigarettes, et il m'a dit, j'espère que vous fumez beaucoup. C'est assez rigolo. Non, j'ai toujours écrit, j'ai toujours été comme ça.
Et votre dernier roman date de 2009, et depuis vous avez sorti 2 recueils de nouvelles avec Le vélo de l'ange.
Oui.
Pourquoi la nouvelle? Pourquoi pas de roman?
Parce que j'ai plus envie d'écrire de roman.
Pourquoi ça?
Je sais pas, j'ai plus besoin. Je préfère écrire des nouvelles parce que c'est beaucoup plus ramassé. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, quoi. En plus, techniquement, quand vous écrivez une nouvelle et vous avez 2 fois le même mot dans la nouvelle, ça va pas. Dans un roman, vous vous en foutez complètement. On est beaucoup plus pointu. Et donc c'est beaucoup plus long d'écrire une nouvelle, parce qu'il y en a que j'ai écrite une dizaine de fois. Il y en a une qui s'appelle Déesse, qui est l'histoire d'une vieille folle, bon, qui la pauvre femme, et qui délire complètement devant une statue de la Vierge dans une chapelle. Je l'ai dû l'écrire 10 fois, jusqu'à ce que le ton... Parce que c'est elle qui... C'est un monologue, donc... Elle délire, bien sûr, mais il faut que le délire soit construit, il faut qu'il soit crédible, etc., etc., etc. Et j'ai passé des heures là-dessus. Pour écrire ce recueil, j'ai mis 4 ans. Mais pas tous les jours, hein, je sais pas. Mais ça m'a pris du temps. Alors qu'un roman, ça prend 2 ans. Mais les nouvelles, si on les réécrit tout le temps, si on les refait, si on veut qu'elles soient parfaites, qu'on veut donner exactement l'impression, les sentiments ou les émotions qu'on veut faire partager, c'est pas laborieux, parce que moi j'écris plutôt facilement, mais je recommence tout le temps.
C'est exigeant.
Voilà, voilà.
C'est un exercice exigeant. Selon vous, c'est plus difficile d'écrire une nouvelle qu'un roman?
C'est plus exigeant, oui.
On est dans l'exercice de style, en fait.
Non, parce que quand même, c'est ce que les gens croient toujours, que la nouvelle, c'est un exercice de style. Non, c'est un genre à part, particulier.
Mais alors, en France, justement, on a pas vraiment cette culture de la nouvelle.
Il n'y a pas longtemps, chez un libraire où je faisais une signature à Soissons, le libraire m'a raconté qu'une dame lui a demandé « Mais c'est quoi une nouvelle exactement ?» Je ne savais pas. Non, en France, c'est pas très bien vu.
Comment vous expliqueriez ça, vous, de votre point de vue
écrivain ? Moi, j'arrive pas à l'expliquer. J'arrive pas. Ça fait des années que je le sais.
Pourtant, il y a beaucoup de recueils de nouvelles, d'auteurs anglo-saxons, même français.
Oui, c'est ça. Les Anglais, les Italiens, les Espagnols. Les Américains.
On trouve même des périodiques aussi qui sortent des nouvelles. Pendant un temps, il y a eu un périodique qui s'appelait Alfred Hitchcock Présente, qui était vendu dans les presses.
Ah oui.
On en lit quand même encore un peu quand même.
Ah oui, c'est encore lu.
Mais le lecteur français préfère les romans.
Ils préfèrent. Ils sont un peu pas conformistes, mais ils ont des idées bien arrêtées, quoi. Pour eux, la nouvelle, les gens, ils disent toujours, vous écrivez des petites nouvelles. Ben, je dis non, j'écris des nouvelles, que ce soit petites ou grandes, c'est très curieux. Il y a une espèce de désaffection. Alors que les novellistes comme Barbé d'Aurevilly, Mérimée, Balzac, il y en avait une flopée. Hein. René-Louis Desforêts, il a écrit des nouvelles formidables.
François Thibault, aujourd'hui, selon vous, quel est le rôle d'un écrivain dans la société ? Quelle place, selon vous, il a aujourd'hui, alors qu'on questionne la culture, que la culture est largement remise en question ?
Je ne sais pas ce que l'écrivain peut apporter à la société d'aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne me concerne pas, mais c'est je ne sais pas, quand je reçois un message de quelqu'un qui est très heureux d'avoir lu ce recueil-là, par exemple, j'ai l'impression d'avoir touché à mon but. Mais je n'ai pas de but précis, je n'ai pas de but ni sociologique, ni politique, ni quoi que ce soit. C'est à part, quoi.
Mais en dehors de vous, du fait d'avoir un but ou pas... À votre avis, la littérature, elle apporte quoi en général ?
Je ne sais pas. Moi, ce qu'elle m'apporte quand je lis un livre qui me plaît énormément, et surtout des nouvelles, c'est une espèce de jubilation et de l'émotion. C'est comme un tableau. Hein.
Et donc, même en tant que lecteur, vous portez plus sur la nouvelle que sur les romances actuellement ?
Actuellement, oui. Je suis en train de lire des nouvelles siciliennes d'un type qui s'appelle Verga. Giovanni Verga, vous n'avez pas lu ça ?
Non, je ne connais pas, non.
C'est un type qui était le fils de gros propriétaires terriens siciliens au 19e. Il vivait à l'époque de Flaubert ou de Maupassant, etc. Et il est parti à Naples. Et il a commencé une carrière de romancier à la mode, à la napolitaine, quoi, les comtesses, les marquises, les machins. Et puis au bout de quelques années, il s'est rendu compte que ça ne l'intéressait pas du tout, même si ça lui rapportait beaucoup d'argent. Alors il est rentré en Sicile, et il a décidé d'écrire sur les pauvres. Et Dieu sait qu'en Sicile, il y en avait, quoi. Les pêcheurs, les paysans, etc. Et j'ai jamais lu des nouvelles aussi impressionnantes. C'était terrible.
Est-ce que vous sentez une influence des auteurs que vous lisez ou que vous avez lus par le passé quand vous écrivez vos nouvelles ?
Oui, par exemple, les nouvelles de D.H. Lawrence, je les trouve magnifiques. Celles qui se passent dans le pays minier d'où il est originaire. Il y a les nouvelles de William Goyen qui sont superbes. Les nouvelles du siècle d'avant, c'est-à-dire Barbé d'Aurevilly et tout ça, les diaboliques, c'est invraisemblable, quoi. Et oui, il y en a beaucoup que je lis avec curiosité. Et puis, il y a une nouvelle de D.H. Lawrence qui est une espèce de... C'était une Lady Chatterley en avance. Il a écrit ça, il avait 20 ans. Je l'ai lu 4-5 fois, je ne sais plus. Ça me sidère toujours autant, quoi. Il y a les nouvelles aussi de... Ben, Italo Calvino, bien sûr, en Italie. Les nouvelles de Tolstoï, qui sont magnifiques. Les nouvelles de Tchekhov, alors là, il y en a un paquet, il y a deux volumes de la Pléiade. Et voilà, moi j'adore ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence de Dino Buzzati quelque part pour certaines de vos nouvelles?
Dino Buzzati?
Oui.
Oui, mais j'ai dit qui?
Ah, vous ne l'avez pas cité. Vous avez dit Calvino.
Oui, j'ai fait un lapsus. Ouais. J'ai cité Italo Calvino. Non, non, c'est Buzzati, oui, oui, oui. C'est le cas. Oui, le cas, c'est chef-d'œuvre absolu.
Ah oui, ah, Buzzati, oui.
Et... Ah oui, c'est Dino Buzzati, oui. J'ai fait un lapsus. Bah, les nouvelles de Balzac, qui sont formidables. Et très brèves aussi, La Messe de l'athée, ça fait 6 pages, 7 pages, pas plus. Hein. Mais rimé, bien sûr. Ah, Villiers dit l'Adam, c'est contes fantastiques. Ils sont assez étonnants.
Vous vouliez parler d'une autre écrivaine?
Oui, de Daphné du Maurier, qui n'a pas une très bonne réputation chez les gens sérieux, parce que ce sont des romans à l'eau de rose, la Rebecca, tout ça, des romans très, très gothiques. Mais elle écrit des nouvelles absolument fabuleuses. Fabuleuses.
Daphné du Maurier, qui est connue pour justement Rebecca, adaptée par Alfred Hitchcock au cinéma.
Oui, c'est ça.
Mais aussi Les Oiseaux, je crois,
voilà,
aussi celle.
Oiseaux, c'est une de ses nouvelles.
Oui, elle a écrit du fantastique, voilà. Daphné du Maurier.
Ah, elle écrit que ça.
Oui, oui. Moi, j'ai jamais lu, hein, je crois.
Ah, il faut lire ça, c'est formidable. Et Les Oiseaux, vous avez un gros recueil, je crois, je ne sais plus chez qui. Avant, c'était en livre de poche. Le titre original, c'est Le Pommier, The Apple Tree. Et Le Pommier, c'est la nouvelle fantastique la plus ahurissante que j'ai jamais lue. C'est formidable. Puis les nouvelles de Henry James, bien sûr. Des nouvelles de fantômes, on les connaît toutes. Mmh. Et puis Watson aussi. Comment s'appelle-t-elle? Elizabeth Watson, je ne sais plus. Ou Wharton.
Edith Wharton.
C'est une New Yorkaise.
Je crois que c'est Edith Wharton.
Qui était une amie de machin, comment il s'appelle? Je viens de le citer.
Henry James.
Henry James. Et elle essayait de l'imiter, mais de l'égaler. Et il y a des nouvelles de fantômes qui sont pas piquées des vers. Hein. Mais ça, c'est au 19e, quoi. Au 20e, en France, oui, à part René-Louis Desforêts, je ne vois pas trop, il y en a d'autres, mais il y a certaines nouvelles de Simenon qui sont extraordinaires. Très brèves aussi. Enfin, il y en a quand même, il hein. Y en a. Il y a de quoi remplir une vie, disons.
Pour conclure, qu'est-ce que vous inspire ces attaques sur la culture dont on est témoin actuellement?
Ces attaques, vous voulez dire
Les baisses de subventions, les sous-ententes comme quoi la culture, ça ne sert pas à grand-chose.
Voilà, ben ça, je ne sais pas. Ça me paraît une régression terrible. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. Mais en France, ça commence. Et en Angleterre aussi, quand vous pensez que en Angleterre, Roald Dahl aussi, ont corrigé carrément un gros monsieur devenait un monsieur imposant.
Alors que gros n'est pas un adjectif péjoratif, il faut le rappeler. Ouais. Malheureusement, on est obligé de le rappeler toujours aujourd'hui. Gros n'est pas un adjectif péjoratif.
Voilà. Alors c'est très curieux ce qui se passe. Oui. Là-bas aux États-Unis, vous n'avez pas vu Trump qui vient de supprimer le ministère de l'Éducation?
Si, si, j'ai vu. C'est terrible. C'est la porte ouverte aux extrémismes, quoi.
Ouais, ouais. C'est effrayant. Oui. Mais ça, je pense que un des rôles des écrivains, c'est de la perpétuer cette culture.
Ça rejoint ma question de tout à l'heure.
Voilà, oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que notre rôle à nous, c'est ça, quoi. De continuer jusqu'à ce que la génération suivante nous remplace.
Alors justement, ce qui m'amène à une question à laquelle je pense là maintenant, c'est est-ce que le rôle d'écrivain, quelque part, ne rejoint pas un peu le rôle d'historien, quelque part?
Ah ben
de
oui.
De perpétuer une mémoire.
Oui, 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 bien sûr, oui. L'historien, lui, il ne peut pas inventer.
Non, mais il peut interpréter.
Oui, oui, ah ben oui, c'est sûr, oui, oui.
Parce que l'histoire est une construction aussi, quelque part.
Non, mais l'écrivain, c'est ça. Moi, je vois parler d'un type qui m'avait beaucoup impressionné, qui est Claude Simon. Lui, c'est l'histoire qui s'impose. C'est un grand écrivain, oui.
François Thibault, merci.
Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Et je rappelle que malheureusement, la majeure partie de votre œuvre n'est disponible qu'en ton occasion, hein, vos
oui,
romans.
Oui,
mais en plus du Vélo de l'Ange, qui est paru aux éditions Court Toujours, on peut toujours se procurer votre avant-dernier recueil, Les Rois Barbares, qui est disponible aux éditions de la librairie du Labyrinthe.
Voilà.
Donc deux occasions de découvrir le style assez singulier de François Thibault à travers ses nouvelles. Et pour les romans, il faut aller chez les bouquinistes. Voilà.
Voilà, ou dans les bibliothèques.
Voilà, ou dans les bibliothèques.
Bibliothèque aussi.
Alors en tout cas, François Thibault, si vous ne connaissez pas, un écrivain à découvrir absolument.
Merci beaucoup.
Écoutez The Chain de Fleetwood Mac. Vous êtes toujours sur Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Et en parlant d'actualité, c'est à vous, Aline et Benjamin.
Tout à fait. Alors Benjamin, pour ta première actu, tu as choisi de nous parler d'un concert.
Oui, ce samedi 26 avril à 15h, la place Gambetta en centre-ville accueillera un concert gratuit de Morgane G, une artiste folk entourée de musiciens qu'elle a rencontrés au fil de ses aventures. C'est avec eux qu'elle pourra vous offrir une prestation de folk telle que dans les années 70. Ce concert s'inscrit dans le cadre des animations gratuites du samedi, mises en place par la ville d'Amiens depuis avril 2024. Donc rendez-vous ce samedi 26 avril à 15h, place Gambetta, pour un moment détente avec Morgane G. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir le centre d'Amiens en musique. Aline, toi tu as choisi de mettre en avant l'artisanat local ?
Exactement, je vous ai dégoté un marché des créateurs le samedi 26 avril de 10h à 19h. C'est en fait tous les derniers samedis du mois d'avril et jusqu'en septembre, vous allez pouvoir retrouver plus de 80 créateurs et créatrices au jardin Dieufaux en contrebas de la cathédrale. Les promeneurs et promeneuses pourront y retrouver de la mosaïque, des parfums, de la maroquinerie, de l'art floral, mais aussi des produits zéro déchet, des peintures, des bougies, etc. etc. Donc plein de choses. En résumé, c'est aussi une occasion de se balader, de trouver des petites pépites de nos artisans et artisanes locaux pour vos prochains anniversaires, la fête des mères en mai, plein d'occasions. J'espère que tu vas y aller, Colline.
Oui, oui, oui.
Pour ta maman et pour
ton
papa.
C'est quand la fête des mères ?
C'est, je crois, le 25 mai.
Ouais,
c'est ça. Ensuite, Benjamin, tu nous as préparé une petite brève sur une nouvelle exposition.
Tout à fait, ami photographe ou simple amateur de belles photos, Ludo Leleu vous propose pendant un mois une exposition à la résidence de vie du Château Blanc à Flixecourt. À travers son objectif, il vient capturer les moments d'échange, les gestes du quotidien et les petits instants de vie partagés avec les résidents. Pendant ce mois, Ludo Leleu propose ainsi des temps de rencontre autour de son travail avec des professionnels, mais aussi avec différents publics. Il partagera son processus de création entre photos et sons et invitera à réfléchir à la façon dont l'image peut parler d'un lieu et de ses habitants. À découvrir à partir du 26 avril jusqu'au 24 mai à la galerie Totem à côté de la cathédrale. Et toi Aline, pour finir ces brèves, tu nous proposes de s'engager bénévolement ?
C'est ça, en plus c'est pas pour n'importe quoi, c'est pour minuit avant la nuit. Vous avez jusqu'au jeudi 1er mai pour remplir le formulaire d'inscription directement sur le site du festival et c'est pour être bénévole. Donc devenir bénévole, c'est s'engager personnellement pendant quelques heures pour aider sur le festival. Mais ça permet aussi de vivre une expérience qui est unique dans une ambiance de festoche, donc c'est assez fou. Et aussi c'est être en totale immersion, donc je pense que c'est vraiment intéressant. Et ton engagement te permettra aussi d'accéder au festival et à la vie du festival et au concert en dehors de tes horaires de bénévolat. Alors pour cette nouvelle édition du festival, n'hésite pas, la Lune des Pirates en fait pas mal besoin de tout le monde. Pour rappel, minuit avant la nuit, c'est du 12 au 15 juin, ça se déroule en plein cœur d'Amiens et c'est principalement au Parc Saint-Pierre. Pour les têtes d'affiche, il y a vraiment des beaux noms comme Philippe Catherine, Oshi, Odezen, Kavinsky. Et pour nos artistes locaux, vous allez retrouver sur scène Soro et Somsouk, Double T ou encore Verbe. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur le site de Minuit Avant la Nuit. Et c'est tout pour nous.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces actualités très riches aujourd'hui. C'est déjà la fin de cet Info Club Sandwich de cette semaine, de cette nouvelle semaine. Et si je suis un peu triste, c'est parce que c'était ma dernière avec vous à l'antenne.
Mm-hmm. Et la dernière
et la
de
dernière
Benjamin.
La dernière de Benjamin aussi. Ouais. Sa dernière à la technique.
Et au brève.
Et au brève. Le pauvre, on l'a forcé à en faire. Merci à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Et je me tourne vers toi, Benjamin. Tu as choisi la dernière musique.
La dernière musique, je vous propose d'écouter Vin italien de Yanis.
Eh ben, on s'écoute ça et on se dit à très vite.
J'ai peur de vider mon stock de rimes. T'es pas mon pote, pauvre intellectuel bloqué dans un corps de riche. Y'a mes gars sur le side, j'veux pas qu'on me sépare comme les Jackson 5. Quand j'suis high, j'rêve d'ailleurs plus de Bayer. Que j'ai plein de ice sur la glace.
verra comment. J'appartiens au commun des mortels, une erreur et ça recommence. C'est noir et blanc dans mon iris. Les médias nous vampirisent. Tu bois des litres, tu bois des litres. Et tu crois parler aux anges. Le blanc des yeux peut vite virer au sang. Effleurer le bonheur, je l'espère. En attendant, je fais du 0 à 100. Et je mange ma carte son. Mes choix ne sont pas très cartésiens. Mais en tout cas, je suis fidèle aux homies. Pas dans le genre de celui qui écarte les siens. Aston Martin, je façonne l'avenir. J'en ai pas mal dans ma cervelle. Je plafonne ma team, personne m'attire. Pourtant, cette bitch me dit qu'elle m'aime. Bitch. Je fais les bails discrets, jamais je me disperse. Des occasions qui se créent et des balles qui se perdent à chaque nouveau couplet. On me dit découpler, il fut un temps, la musique m'avait dégoûté. Ok, ok, j'ai pas d'inspi all day. Pas d'inspi always, mais je bosse jusqu'à en avoir mal aux pieds. La douceur t'infamasse, la douleur que j'amasse. Se tasse dans un camas, puis se casse dans un amas de cendres. Mais faut que redescendre, j'ai le cœur en désordre. Sur eux, une instru qui tabasse. Dans ma ville, y'a des vieux qui skyent. Et des bleus qui se taillent. À la recherche d'un bleu cristal. Dans le froid, contre moi, bah j'ai blotti le sky. J'ai plus qu'un dollar dans les frites. Un petit goût de meulard dans les frites.